Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, les femmes changent tout. Ce soir, notre cinquième rencontre avec Camille Froidevaux-Métry pour comprendre la révolution vécue du féminin. Les femmes changent tout, la question du féminin, quelle que soit la formulation, qui importe beaucoup malgré tout qu'on lui donne, cette question, cette dimension, cette différence n'est pas un enjeu local qui ne concernerait qu'un secteur de nos vies, quel qu'il soit, la sexualité ou l'égalité, mais justement une question qui traverse toutes ces dimensions. Et l'une de celles qui est allée le plus loin pour le penser aujourd'hui est notre invitée de ce soir, Camille Froidevaux-Métry, qui est professeure de sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, où elle est également référente égalité et qui est, selon ses propres termes, philosophe féministe. Bonsoir Camille Froidevaux-Métry.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être là ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord avec la présentation que je me suis permis de faire de vous en disant, mais je crois que ce sont vos propres termes, que vous êtes philosophe féministe, et cela pour compléter, disons, vos titres universitaires, vos fonctions dans l'université, qui incluent cette fonction de référente égalité que toutes les universités doivent désormais avoir, comme toutes les institutions publiques sans doute. Mais est-ce que la définition de vous-même, disons, comme philosophe féministe vous convient? Est-ce que vous la revendiquez, Camille Froidevaux-Métry?
Oui, et depuis peu, en fait, c'est peut-être une forme de prise de conscience. Je me suis longtemps définie comme enseignante de sciences politiques, après avoir fait une thèse de philosophie politique, mais j'enseignais surtout l'histoire des idées politiques. Mmh. Et je suis venue au féminisme, disons, tardivement dans mon parcours, puisque j'ai à un moment donné fait un virage, ce qu'on appelle une conversion thématique, après avoir travaillé une quinzaine d'années.
Ça, c'est la définition universitaire du terme. C'est ce qu'on appelle un congé sabbatique.
Non, parce que je l'ai fait.
C'est le titre, la manière universitaire de désigner ça, disons.
Voilà. Mais pour moi, ça a été plus que cela, puisque c'était non seulement changer totalement de champ de recherche, mais aussi, d'une certaine façon, changer progressivement peut-être de façon de faire, c'est-à-dire de passer davantage de l'histoire des idées à la philosophie, ou en tout cas de tenir les deux ensemble. Et puis, ben, je tiens à l'adjectif féministe parce que, en fait, ce que je pense, c'est du féminisme, c'est ce qu'on l'on fait avec les concepts employés avant moi par celles qui ont pensé la condition des femmes et puis qui forment comme une lignée dans laquelle je souhaite m'inscrire.
Alors pour vous, juste pour préciser d'abord ce premier point, quand vous dites philosophe féministe, d'après ce que vous venez de dire, finalement ça ne désigne pas tant un geste militant, comme on dit le féminisme, comme mouvement militant en politique, mais ça peut désigner aussi, disons, une sorte d'angle théorique sur le monde, un peu comme on dit philosophe matérialiste ou philosophe vitaliste. Est-ce que philosophe féministe, c'est aussi un prisme théorique pour comprendre toutes les questions? Est-ce qu'il y a ces deux aspects, un peu militant et un peu, disons, théorique, oui?
Oui, je crois que j'essaye d'articuler ces deux dimensions. Dans le contexte français, je crois que ça a du sens d'insister sur ce couple de mots, philosophe féministe, parce que d'une part, il y a encore trop peu de femmes qui se présentent et que l'on qualifie de philosophes, parfois alors même qu'elles le sont. C'est quelque chose que j'ai repéré. Je trouve que c'est important de d'oser en quelque sorte se présenter de la sorte. Par ailleurs, il y a une tradition malgré tout française, et certainement dans le champ féministe, puisque on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Simone de Beauvoir constitue, mm-hmm, dans mon parcours, mais dans celle de à peu près toutes les philosophes féministes, une forme de socle théorique indépassable. Et donc effectivement, c'est une façon de voir le monde. Alors c'est peut-être en découvrant dans mon travail que le féminisme avait changé le monde, que j'ai du coup endossé cette façon de comprendre les choses.
Oui, donc c'est justement un geste très fort de ne pas en faire seulement une sorte de isme au sens politique, au sens militant, mais de isme aussi au sens de vision du monde, de regard sur l'ensemble des choses. Vous disiez que les femmes se disent plus difficilement philosophes que les hommes. C'est possible, même si je pense que de toute façon, on n'est jamais totalement philosophe. On cherche à l'être ou on se bat avec cette question-là. Mais est-ce qu'un homme, je vais dire, poser la question qui a dû vous être posée très souvent, est-ce qu'un homme peut être un philosophe féministe, Camille Froidevaux-Métry? Est-ce qu'il faut être une femme? Il y a un moment où, au début de votre grand livre, La Révolution du Féminin, qui est paru chez Gallimard en 2015, est-ce que, à un moment, vous parlez tout de suite, au féminin, vous dites les théoriciennes. Le féminisme a été introduit par des théoriciennes. Est-ce qu'il est impossible d'être un philosophe féministe ?
C'est la façon dont les choses se sont passées jusqu'à présent, mais je ne vois pas d'incompatibilité a priori à ce qu'un homme puisse se saisir de ces questions et les penser. Bien évidemment que non. En fait, que ce soit sur le terrain de la militance ou celui de la pensée, le premier mouvement, c'est un mouvement de saisie par les femmes de leur propre destin, mais aussi de leurs propres conditions, c'est-à-dire aussi de la façon dont elles sont pensées. Donc, je crois qu'il n'y aurait pas pu y avoir en premier des philosophes hommes féministes, et que de façon absolument, enfin voilà, évidente, il revenait aux femmes de se penser elles-mêmes d'abord.
Est-ce que c'est pas quand même un mystère que les hommes, en tant que partie masculine de l'humanité, hein, puisqu'il y a en plus cette préemption de l'espèce par le masculin, disons, est-ce que c'est pas un problème qu'ils ne se soient pas aperçus d'eux-mêmes de cette domination et de ce problème, et que les philosophes masculins, disons, n'aient pas pu poser d'eux-mêmes la question du féminin?
Est-ce que vous-même, Frédéric Worms, vous vous l'êtes posé un jour, peut-être?
Je pense que j'étais dans une sorte de naïveté égalitaire a priori, mais et que j'ai aussi une forme de sidération récente sur le retour de cette question, mais que étant né dans les années 60, venant après tout ça, pour moi, oui, c'était assez évident que cette question faisait partie des grandes questions philosophiques. Mais c'est vrai que je n'en aurais pas fait le prisme premier. Mais peut-être, est-ce que c'est parce que je suis un homme, ou est-ce que c'est parce que j'ai un regard autre sur le vivant et les relations entre les corps, qui ne passe pas seulement par cette question. Est-ce que c'est ma dimension masculine qui m'a empêché de le voir ?
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je crois, c'est le repère temporel. Je crois que jusque dans les années 60, en effet, les hommes n'ont pas pu penser la condition féminine parce qu'elle était réglée. Elle avait été réglée
une
bonne fois.
C'est ce qui m'avait semblé. Et voilà. Justement, je suis sidéré par les régressions d'aujourd'hui dont on va parler, Camille Froidevaux-Maîtré.
Voilà. Et donc, dans la première partie de la révolution du féminin, je déroule l'histoire de la pensée politique des Grecs jusqu'aux penseurs de la démocratie moderne, en repérant que ce qu'on appelle le grand tournant de la modernité démocratique, donc la fin du XVIIIe siècle, avec les grands philosophes qui ont permis que notre monde s'affranchisse, voilà, politiquement en tout cas, eh bien, du point de vue des femmes, les choses étaient tout à fait différentes, et que si l'on veut être cohérent, nous n'entrons dans la modernité pleine et accomplie qu'à partir des années 60, qu'à partir précisément de la révolution féministe. Jusque-là, tous les penseurs du politique, et donc y compris les plus modernes, ont endossé ou se sont réappropriés le schéma patriarcal qui consistait tout simplement à décréter que le monde était divisé en deux sphères, la sphère privée féminine, la sphère publique masculine, selon un ordonnancement hiérarchisé, bien sûr. Et que cette structuration, elle était à la fois immuable et certainement appelée à perdurer, puisque elle s'enracinait dans un argument difficile à contrer, un argument fonctionnaliste, les femmes étant, de par leur corps, destinées à porter et élever des enfants, il était proprement impensable de les imaginer ailleurs qu'enfermées au foyer.
Alors, vous venez de, implicitement, dans ce que vous venez de dire, vous venez de glisser une des originalités fondamentales de votre approche, qui est en effet de montrer, disons, la façon dont le corps féminin a été utilisé socialement dans cette assignation des femmes, le corps féminin qui porte les enfants, au moins jusqu'ici, puisque vous évoquez aussi les hypothèses d'utérus artificiel dans certains de vos travaux. Le corps féminin a été utilisé comme ça. D'ailleurs, au fond, il n'y a rien dans le corps féminin qui oblige à élever les enfants. Vous dites porter et élever, mais il n'y a rien dans le corps en tant que tel qui oblige à assigner l'éducation des enfants aux femmes. Mais l'originalité de votre travail, Camille Froidevaux-Maîtré, parlons-en tout de suite d'un mot, même s'il faudra préciser, c'est justement que votre insistance sur le corps. C'est-à-dire, il faut critiquer certains usages du corps féminin, mais ne pas dénier pour autant que les corps masculins et féminins sont différents, et même un féminisme entièrement assumé passe par une prise de parole féminine, non seulement dans la cité, non seulement philosophique, mais sur l'existence, le fait de vivre son corps féminin, peut-être même de le vivre comme féminin.
Alors,
je vais peut-être trop vite.
Oui,
Camille,
et surtout, ça m'allait bien jusque-là, mais les tout derniers mots me vont moins bien, Frédéric Worms. Mais je vais. Enfin, ce qui est important, c'est que je suis entrée en féminisme par le corps, par le mien spécifiquement, puisque le moment fondateur et ce qui a été à l'origine de mon de mon changement de sujet de recherche, c'est le hasard de la vie qui a fait que j'ai été recrutée pour mon premier poste à l'université, alors même que j'étais enceinte de mon premier enfant, que j'ai donc commencé mes cours, alors que mon fils avait quelques semaines et que tout le monde autour de moi trouvait tout cela merveilleux, toutes ces choses qui m'arrivaient en même temps, et que moi je vivais tout simplement une forme de déflagration, à la fois existentielle, sociale, et que je trouvais singulièrement rude, enfin en tout cas qui n'était pas fluide, et qui m'a amenée à m'interroger sur cette condition que j'éprouvais dans mon corps, condition moderne, contemporaine, de femmes qui à la fois travaillent et font des enfants, aux yeux d'un monde qui leur intime de trouver ça tout à fait normal, alors même que peu de choses sont faites pour leur rendre la vie facile. Et donc je me suis intéressée à ce que mes collègues, sociologues, politistes, philosophes écrivaient de cette condition que j'éprouvais. Et donc j'ai découvert la littérature féministe, les études de genre qui m'ont passionnée. Mais j'ai aussi assez rapidement constaté que ce qui m'intéressait alors, à savoir cette question de la maternité, était curieusement absente ou alors... Voilà, cantonné à une interprétation assez négative dans la veine beauvoirienne de la grossesse comme l'abomination des abominations. Et c'est ce manque, en quelque sorte, au sein des études féministes qui m'a paru curieux, auquel j'ai commencé de réfléchir jusqu'au jour où il m'a semblé que je pouvais apporter une petite pierre à cette discussion, et notamment parce que j'avais entre-temps aussi, en lisant un petit peu au-delà des frontières nationales, découvert...
Des féministes anglo-saxonnes, notamment.
Oui, nord-américaines, notamment, des féministes qui se définissaient comme féministes phénoménologiques, c'est-à-dire des femmes qui, dans la continuité d'ailleurs de Simone de Beauvoir, puisque c'est elle qui inaugure de façon assez magistrale cette tradition du féminisme phénoménologique, qui partait de cette dimension incarnée de l'existence des femmes pour penser leurs conditions.
Alors, féminisme phénoménologique, si on traduit très simplement, ça veut dire un féminisme qui passe par la description et l'ensemble de l'expérience du féminin, et donc notamment du corps féminin. Est-ce que dans votre expérience, là, celle que vous venez de décrire, quand vous avez ce poste à l'université, qu'est-ce qui vous a gêné concrètement? Est-ce que c'est la sorte de difficulté concrète, objective, d'être sur ces deux fronts? Ou est-ce que c'est la manière dont la société ne tenait pas compte justement de cette dualité qui n'est pas seulement la charge d'un enfant d'un côté, la charge d'un poste de l'autre, mais peut-être aussi la charge en tant que femme de manière peut-être plus grande que le masculin de cet enfant et la dénégation de ses conséquences sociales. Qu'est-ce qui vous a choqué, qui vous a fait entrer en féminisme?
Ce que j'ai éprouvé, c'est comme si j'avais en quelque sorte, comme si je vivais au quotidien la division sexuée du monde. C'est-à-dire que j'éprouvais au quotidien cette dualité assez inédite, c'est-à-dire que j'étais un sujet concret incarné nouvellement mère.
Ouais.
Et cette dimension de mon existence prenait une place évidemment énorme et elle était, comment dire, d'un point de vue existentiel presque centrale.
Et j'étais... Vous n'aviez aucune envie de la dénier, de la refouler, absolument. De la masquer, de la camoufler.
Ouais. Voilà. Et dans le même temps, j'étais un individu, un sujet de droit, tel que les femmes ont pu le devenir justement grâce à la révolution féministe, enseignante à l'université et devant, dans cet espace-là, n'être que cet individu dans toute l'abstraction de sa condition.
La citoyenne, la républicaine, voilà. sans aucune autre caractéristique.
Voilà. Et c'était une forme d'expérience un peu vertigineuse qui n'était pas agréable, c'est-à-dire que je sentais comme un écartèlement, quelque chose que je voulais comprendre en tout cas, et c'est ça qui m'a amené à me pencher sur ces sujets.
C'est là qu'on sent aussi, dans cette expérience vécue, dans cette intuition première, qui, comme souvent en philosophie, passe par un refus, déjà des refus théoriques, c'est-à-dire le refus d'un déni du féminin, mais en même temps le refus de son assignation. C'est un peu deux refus symétriques, c'est-à-dire si on vous disait le féminisme, comme c'est souvent revendiqué, consiste à dans une égalité abstraite, sans prise en compte de la charge concrète des différences, vous le refuseriez. Mais vous refuseriez aussi le fait qu'on dise le féminin, c'est à la maison, c'est le corps, dans ses assignations sociales traditionnelles. Donc vous êtes dans ce double refus.
Ce que je vais refuser surtout, Frédéric Worms, c'est ce mot de féminin, ou en tout cas, si on l'emploie...
Pourtant, revendiquez bien, la révolution du féminin.
Oui. Mais il faut le définir. C'est-à-dire, c'est pas le féminin comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une essence ou d'une qualification un peu immuable.
Biologique,
par exemple. Qui traverserait aussi l'histoire. C'est l'idée de prendre au sérieux et de prendre en compte des caractéristiques de l'existence des femmes qui sont spécifiquement rapportées à ce qu'il y a de féminin en elles, et notamment dans les caractéristiques corporelles qui sont les leurs. Parfois, quand on l'emploie, ce que l'on peut deviner derrière le mot, c'est quelque chose qui relève plus, selon moi, de la féminité. Ah. Laquelle féminité relève, elle, de l'ordre des représentations ? La féminité, c'est une forme d'idéal, une sorte de mixte entre dévouement maternel, dépendance matérielle, et puis une forme aussi de disponibilité sexuelle. La féminité, c'est un idéal qui n'a d'ailleurs pas de déclinaison, c'est au singulier, mais qui ne varie qu'en intensité, en quelque sorte. C'est une sorte d'idéal à l'aune duquel on peut évaluer l'existence de
quand vous dites que c'est au singulier, ça veut dire qu'on ne peut pas inventer sa propre féminité. C'est une norme qui s'impose d'en haut de façon unique.
Oui, pour moi, le mot féminité renvoie, et il est en couple avec le mot virilité, d'une certaine façon, il renvoie à un certain nombre de représentations qui sont assignées ou associées à l'existence des femmes et qui sont considérées comme absolument intangibles, en quelque sorte. Le féminin est spécifiquement dans une perspective phénoménologique, il doit être compris dans sa dimension toujours nécessairement située, comme disent les phénoménologues, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'éprouve, donc qui est de l'ordre de l'expérience vécue, à un moment donné de l'histoire, dans une société donnée. Donc ça renvoie à l'idée qu'il y a aussi dans le féminin, évidemment, pas aussi, mais peut-être surtout, un certain nombre de constructions, un certain nombre d'éléments qui sont historiquement et socialement à la fois repérables et d'une certaine façon aussi, pour certains, critiquables. Penser le féminin, c'est penser ce que c'est que d'être une femme à un moment donné de l'histoire, dans une société donnée et dans un corps qui s'avère être sexué. C'est la chose qui m'importe sans doute le plus dans cette histoire.
Alors, ce qui est très beau dans votre reprise de la phénoménologie, Camille Froide-Vaumétry, vous qui êtes passée, qui avez combiné, disons, la science politique et la philosophie, c'est justement cette reprise du rapport au corps que la phénoménologie a permis de penser. Il y avait Simone de Beauvoir, mais autour d'elle, évidemment, Sartre et Merleau-Ponty. Et c'est un ensemble. Pour Sartre, par exemple, le corps que nous trouvons à la naissance, qui soit masculin ou féminin, qu'il louche ou qu'il ait un regard qui ne louche pas, qu'il soit grand ou petit, c'est un objet du monde. Et puis, il y a la conscience, le sujet, qui vit ce corps et qui lui donne le sens, au fond, qu'il veut, c'est cette liberté. Donc finalement, Simone de Beauvoir et vous-même, à la suite, dans ce courant, vous reprenez la question du corps dans lequel nous ne choisissons pas d'être, mais auquel nous devons donner un sens, qui fait partie de corps vécu par quelqu'un, un sujet libre.
À cette nuance près que ni Sartre, ni Merleau-Ponty, ni même Husserl avant lui, n'ont sexué les corps phénoménologiques dont ils parlaient. Ce que fait Simone de Beauvoir, précisément, c'est d'introduire cette dimension de la sexuation. Elle dit la femme, comme l'homme, est un corps, mais elle est aussi un corps pour l'autre, avec un grand A. Et c'est cette nuance qui change tout, puisque...
Les femmes changent tout, je suis bien d'accord avec vous, Camille Froide-Vaumétry. C'est pas du tout pour dénier ce changement, mais c'est pour justement montrer comment vous-même le prenez dans cette tradition-là.
Absolument. Ce que j'essaye de faire aussi, c'est de retrouver, de retrouver en fait une forme d'inspiration originelle chez Simone de Beauvoir, dont on a une lecture un petit peu univoque, c'est-à-dire qu'on a retenu d'elle tout ce qu'on peut condenser dans cette expression trop fameuse « on ne naît pas femme, on le devient », qui fait parfois de Simone de Beauvoir une forme de pionnière des études de genre, en laissant totalement de côté l'autre versant de sa proposition, qui est le versant proprement phénoménologique, c'est-à-dire qui, d'une part, ce qu'elle fait dans le deuxième sexe, c'est bel et bien de montrer comment le corps des femmes est le vecteur privilégié de tout un ensemble de mécanismes qui produisent et reproduisent sans fin la soumission des femmes à l'ordre patriarcal des choses, mais par ailleurs, elle ajoute que la femme, comme l'homme, est un être humain sexué, et que si elle nie, alors elle emploie le mot de féminité, mais nier sa féminité, c'est se priver d'une part de son humanité. Et c'est ce versant-là, tout à fait oublié, minoré de sa pensée, que j'essaye de réinvestir, parce que c'est ça le féminisme phénoménologique, c'est considérer que le corps est aussi le lieu possible d'actualisation de la liberté et de l'égalité.
peut-être d'ailleurs, Camille Froidevaux-Maitry, qu'on trouverait ça encore plus fortement dans les romans de Simone de Beauvoir ou dans son journal que dans ses essais, où c'est très présent, comme vous le dites. On retient souvent la critique de politique qui libère les femmes de certains rôles assignés, mais pas la revendication aussi de vivre sa féminité ou le féminin de façon subjective et libre. Juste un mot encore dans la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, il y a tout un chapitre sur la sexualité. Oui. Mais vous distinguez sexualité et sexuation finalement, c'est-à-dire c'est la sexualité en général chez cet homme qui était Maurice Merleau-Ponty, et ce serait Simone de Beauvoir qui a assumé le fait que nous ne sommes pas seulement des êtres sexuels, mais sexués, c'est-à-dire irréductiblement, malgré tout, même s'il y a des sujets et des corps qui ont des complications, enfin qui ne s'inscrivent pas dans cette binarité, nous sommes malgré tout hommes et femmes ou hommes ou femmes, et il faut le vivre, donner sens à ça. Ça fait partie de notre condition pour vous.
Voilà. Mais je voudrais ajouter l'étape théorique suivante, qui est ce que Iris Marion Young fait à partir de la phénoménologie de Simone de Beauvoir, puisque je pense que c'est elle qui donne, disons, sa forme aboutie véritablement au féminisme phénoménologique, puisque...
Théoricienne contemporaine.
Oui, elle est décédée un peu prématurément, mais on peut considérer que c'est une philosophe voilà du XXe siècle, de la deuxième moitié du XXe siècle, américaine, et qui, dans une série de textes, a exploré les modalités de l'être au monde des femmes relativement justement à ce que leur corps implique de leur présence au monde, aux autres et à elles-mêmes. Donc, comme Simone de Beauvoir, en repérant tous les mécanismes qui les assignent à la place qu'on leur a réservée, la petite place qu'on leur a réservée dans l'histoire, mais en même temps en précisant que le corps et le genre sont toujours situés, vécus, incarnés, et que cette situation est aussi le signe d'une possibilité d'émancipation.
Voilà, que la critique sociale et l'existence subjective ne sont pas contradictoires.
Absolument.
Mais complémentaires.
Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 asservis, humiliés, les femmes, achetées.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, les femmes changent tout. Ce soir, notre cinquième conversation avec Camille Froidevaux-Maitry autour de la révolution vécue du féminin. Camille Froidevaux-Maitry qui a publié successivement La révolution du féminin chez Gallimard et Le corps des femmes, la bataille de l'intime aux éditions Philo Magazine. Camille Froidevaux-Maitry, nous venons d'entendre ce qui est, je crois, l'hymne du MLF, et vous étiez étonné que je ne le connaisse pas, et je vous ai répondu qu'à ma grande honte, je ne suis qu'un homme. Peut-être est-ce que c'est une des raisons de mon ignorance, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cet hymne qui date du début des années 70 pour jalonner notre conversation sur cette politisation du féminin qui, chez vous, passe aussi par l'intime? Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, ce chant, très précisément?
Ce chant a été écrit par plusieurs femmes. C'est une œuvre collective. C'est son point de départ. Et il n'est chanté qu'en commun. C'est un chant...
Obligatoirement collectif.
C'est un chant collectif. Dans la version qu'on a entendue, c'est une version qui date d'il y a quelques mois, qui a été reprise par un ensemble de femmes, dont quelques chanteuses contemporaines. Il y a cette dimension chorale qui est présente depuis les origines et qui m'importe beaucoup parce que le féminisme, c'est une proposition, c'est un combat pluriel, voire même conflictuel. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on pourrait passer des heures à détailler et décrire tous les courants de pensée,
les divisions internes,
parfois très intenses.
Heureusement, vous ne regrettez pas ces divisions.
Absolument pas, non, c'est ce qui fait aussi... C'est pour ça qu'on peut parler de philosophie féministe,
exactement.
Parce que, voilà, c'est pas un dogme, loin de là. Mais ce qui importe et ce qui revient toujours, enfin en tout cas, c'est ce que je trouve important à rappeler, c'est que par-delà ces divisions, précisément, il y a quelque chose comme un élan toujours nécessairement collectif. J'aime parler désormais de sororité, c'est un mot qui revient un petit peu à la mode, que j'aime bien en tout cas parce que il permet précisément, alors non pas de faire comme si toutes les femmes étaient les mêmes, puisque le féminisme notamment intersectionnel est venu nous apprendre à nous, féministes blanches, que derrière nos théories, il y avait quelque chose comme un solipsisme blanc, c'est-à-dire une façon finalement assez étroite de considérer la question de l'égalité, qui passait tout à fait sous silence la condition spécifique des femmes racisées, des femmes issues des classes sociales les plus basses. Donc il y a cette pluralité aussi de femmes, mais néanmoins, quelque chose nous unit, je crois, qui n'est pas d'ailleurs de l'ordre de l'exclusion, mais qui nous permet parfois, et je pense que c'est important, et ce chant, quand il est chanté souvent lors de manifestations ou pour clôturer un colloque, donne lieu à des moments qui sont très intenses d'un point de vue émotionnel, mais aussi, j'allais dire, d'un point de vue presque philosophique.
Presque philosophique, Camille Froide-Vaumétry. Alors vous avez mentionné l'intersectionnalisme qui aujourd'hui fait se recouper les différentes discriminations pour les penser de manière à la fois croisée et différenciée, le sexisme, le racisme, l'assignation de classe aussi. Et donc vous dites que les femmes, évidemment, ne sont pas toutes dans les mêmes situations par rapport aux autres aspects. Mais ce que vous venez de souligner, c'est donc qu'il y a cette unité des femmes et la singularité de votre position. C'est que cette unité féminine, enfin ce collectif, disons, plus exactement, n'est pas seulement une condition que chacune aurait à vivre de façon politique, en critiquant une assignation sociale, mais aussi le partage, au fond, d'un corps, d'une manière d'un corps qu'il faut apprendre à vivre jusque dans son intimité. Et votre dernier livre, Le corps des femmes, rentre dans tous les détails de cette intimité proprement féminine, je ne sais pas si le mot proprement n'est pas déjà trop dire, avec des dimensions sexuelles, des dimensions, j'ose dire, biologiques ou physiologiques, comme la menstruation ou la ménopause, aussi le regard sur les parties, disons, sexuées et socialement surdéterminées, pourrait-on dire, comme les seins. Est-ce que c'est cela que toutes les femmes partagent, Camille Froide-Vaumétry, aussi? C'est tous ces aspects que vous détaillez de l'intimité féminine?
Alors, je ne le dirai pas comme ça, Frédéric Worms. Je voudrais commencer par rappeler que cette question du corps, elle est originelle dans le féminisme, notamment dans le féminisme fondateur des années 70, puisqu'il s'agissait bel et bien d'une part d'affranchir les femmes des diktats de leur corps procréateur, avec les conquêtes qu'ont constitué le droit à la contraception et le droit à l'avortement, et puis sur le versant plus positif, d'initier, de mener une révolution sexuelle permettant aux femmes d'accéder à une sexualité enfin épanouissante et libre. Or, il se trouve que quand on observe ce qu'il s'est passé dans les décennies qui ont suivi la deuxième vague féministe, eh bien c'est comme si le corps des femmes s'était retrouvé en quelque sorte recouvert par une série d'autres combats, recouvert aussi d'un point de vue théorique, parce que bon, voilà, je ne sais pas si on a le temps d'entrer dans le détail, je ne vais pas le faire, mais il y a...
Un détail.
il y a spécifiquement en France une forme de il s'est formé comme une synthèse intellectuelle assez solide entre d'une part la pensée de Simone de Beauvoir, le féminisme matérialiste lesbien des années 70, la grande tradition de l'universalisme républicain ou bien de l'égalitarisme universaliste, et puis les études de genre un peu tardivement importées qui sont venues consolider un édifice qui du point de vue de la pensée féministe, a abouti à une forme, ce que je montre dans la révolution du féminin, une forme de disparition, de déconsidération de la corporité féminine.
C'est-à-dire vous montrez très bien, pardon de vous interrompre, parce que mais pour reprendre votre propre formule, comment avant le féminisme, les femmes étaient réduites à leur corps, et dans un certain moment du féminisme que vous voulez dépasser, elles risquent d'être dépossédées de leur corps, finalement, en tout cas de ne plus pouvoir assumer ce corps.
Ou alors, plutôt, on leur a demandé de faire comme si elles n'en avaient plus, ou pas. Quelque chose comme ça. Or, c'est précisément cette absence ou bien ce rejet, en quelque sorte, je force un peu le trait, mais qui m'a intriguée au moment où j'ai découvert la littérature féministe. Et c'est pour ça que j'ai creusé cette interrogation. Parce que, tout simplement, en tant qu'individu, quelles que soient d'ailleurs les caractéristiques sexuées ou genrés qui sont les nôtres, nous nous présentons toujours nécessairement dans un corps avec nécessairement quelques facteurs de sexuation. Il se trouve qu'aujourd'hui...
C'est vrai, c'est bien de rappeler cette base de la condition humaine que
oui,
Freud vous mettrait malgré tout.
En ajoutant quelque chose d'important que sans doute je n'ai pas suffisamment développé dans la révolution du féminin, mais qui m'est apparu de façon plus flagrante en poursuivant mon travail, c'est que cette sexuation, elle se définit aujourd'hui à travers le prisme de la liberté, spécifiquement pour les femmes, ce qui est tout à fait inédit dans notre histoire, à nous, occidentales, hein, je précise évidemment que je me limite à ce cadre, c'est la liberté assez inouïe qui est la nôtre relativement à ce que nous pouvons faire de nos corps dans toutes ces dimensions sexuelles, maternelles, esthétiques, etc. Par ailleurs, cette liberté, elle concerne, au-delà des femmes, tous les individus, et c'est le propre de la condition humaine contemporaine que de se définir. Alors, une notion que je mobilise, c'est la notion de singularité sexuée. Nous avons tous individuellement à faire quelque chose de nos corps et de leur dimension sexuée, et nous sommes relativement à cette injonction, d'une certaine façon, les plus libres possibles. Enfin,
on peut individualiser, disons, ou individuer sa sexualité,
d'une certaine
sa sexuation
façon,
même.
Ce que j'essaye de faire sans le dire, mais il faut le dire sinon c'est sans doute pas assez clair, c'est d'intégrer l'apport des études queer notamment à la réflexion sur la sexuation des corps, et c'est-à-dire de réfléchir aussi dans une perspective un peu débinarisée et de mobiliser cette idée qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fluidité des
de
gens.
De l'ordre du jeu aussi, du théâtre, aussi. Un petit peu de la scène sociale où chacun peut se montrer un peu
voilà,
et jouer avec les codes.
Absolument, et c'est important de le repérer parce que du coup, le couple féminin-masculin en prend un coup précisément au passage et ça permet surtout, et c'est ça qui m'importe d'un point de vue théorique, de dépasser le prisme et j'allais même dire l'ornière différentialiste.
Mais alors Camille Froide-Vaumétry, vous qui êtes à la fois philosophe et spécialiste de sciences politiques, et on comprend très bien l'importance de ces deux regards puisque vous avez résumé en quelques mots aussi l'histoire des courants politiques et c'est très important de pouvoir aussi marquer cette diversité politique du féminisme. Vous n'abandonnez quand même pas les revendications politiques. Vous venez de critiquer un petit peu les effets de cette revendication de liberté, mais vous êtes aussi toujours dans cette revendication de la liberté de l'usage de son corps. Quant à la procréation, par exemple, vous allez jusqu'au bout et vous considérez que il faut aller encore plus loin dans dans une procréation entièrement libre pour les femmes, d'ailleurs, comme pour les hommes, finalement.
Ce qu'il faut dire, c'est d'abord que le moment où nous sommes est tout à fait passionnant parce que précisément, il signale un réinvestissement, une réappropriation par les femmes et par les féministes singulièrement de leur corps. Et encore plus précisément de leur corps dans ses dimensions les plus intimes. Je parle à ce propos d'un tournant génital du féminisme qui aurait été pris tout à fait récemment, au début des années 2010. Alors, du point de vue de l'homme que vous êtes, Frédéric Worms, peut-être que vous n'avez pas aperçu à quel point...
Ah si, ça je l'ai un peu perçu quand même, Camille Froide-Vaumétry. Il y a des choses qu'on ne perçoit pas, mais celui-là, je l'ai quand même un petit peu perçu.
Oui, parce que l'affaire Weinstein est venue révéler aux hommes quelle était justement l'intensité et l'ampleur du tournant féministe où nous étions.
Seulement, il y a aussi la PMA... tout un ensemble de questions dont vous traitez d'ailleurs très bien.
Bon. Et ce qui me paraît assez, j'allais dire un peu ironique, mais pas tant que ça, c'est cette façon dont les féministes ont fait finalement un retour aux fondamentaux. Ces dimensions incarnées de l'existence des femmes avaient été quelque peu négligées. Il y a encore quelques années, je me souviens que dans le champ féministe, pousser des cris d'orfraie à l'idée, par exemple, d'un congé menstruel. En reconnaissant que les règles des femmes pouvaient avoir un impact sur leur vie quotidienne, on les réenfermait dans leur nature et on risquait donc de les rabaisser une fois encore à leurs conditions anciennement domestiques et inférieures. Là, on change totalement de prisme. Avec cette considération nouvelle et tout à fait bénéfique, je crois, pour la question de l'intime. En fait, ce dont on s'est aperçu...
Alors, qu'est-ce que vous appelez l'intime exactement, Camille Froide-Vaumétry ? C'est une question très importante, parce que c'est la notion qui est au cœur de votre deuxième livre. Et finalement, en disant intime, justement, je pense que vous trouvez un mot pour désigner à la fois des dimensions corporelles très concrètes, et puis des espaces aussi. L'intimité, c'est aussi un espace, c'est aussi quelque chose qui se conquiert politiquement. Et donc, qu'est-ce que vous entendez exactement par l'intime ?
L'intime, c'est sans doute l'endroit ou le lieu du rapport d'abord de soi à soi et de soi à l'autre, mais hors du regard et de l'intervention d'autrui. Mmh. C'est tout ce que nous faisons de nos corps sans que personne ne puisse en témoigner, en quelque sorte. Et cette idée
pas tout à fait personne. Par exemple, si on est en couple, si on parle d'une relation intime, on fait entrer des intimes dans cet espace intime.
Il n'y a pas de témoin de la relation.
Voilà, mais cette relation peut exister. C'est pas privé au sens d'un enfermement dans une individualité.
Non, bien sûr.
C'est pas une identité, ça peut se partager.
Absolument. Oui, c'est pour ça que je parle plus d'espace et que de relation, puisque intégrer cette dimension du rapport à l'autre. Et si l'on y réfléchit, en précisant un peu plus, l'intime, c'est finalement, on pourrait le réduire au sexuel, mais ce ne serait pas encore suffisant. Mais disons que on n'est pas très loin de cette assimilation entre ce que nous faisons de nos vies et de nos corps intimes avec soi ou avec un autre, ou plusieurs d'ailleurs. Hein, mais voilà, bon, je ne suis pas sûre d'être tout à fait claire sur cette question de l'intime.
C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Je pense que, bien sûr, dans ce livre sur l'intime, vous parlez du corps, et il faut le faire, et vous parliez là des droits aussi qu'il faut lui accorder à ce corps intime, les droits à la menstruation ou autre. Mais on peut aussi partager des peurs intimes, des angoisses intimes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi à ouvrir tout un espace politique de l'intimité en général, au-delà des corps eux-mêmes, et au-delà du féminin? Mais c'est votre sujet, hein, et le nôtre ce soir, donc ne débordons pas trop.
Vous m'avez donné le bon mot, Frédéric Worms, c'est-à-dire cette idée de politique. L'intime, jusqu'à présent, c'est tout ce qui, dans l'existence des individus, et singulièrement des femmes, échappait aux politiques. Et le tournant génital, c'est très exactement ce moment où nous prenons conscience de ce qu'il était resté, un domaine de l'existence, à part, en quelque sorte, de la révolution de l'émancipation, un domaine de l'existence des femmes qui n'avait pas pu être investi par les revendications d'égalité et de liberté, le domaine de l'intime. Et ce qu'il se joue aujourd'hui, c'est que l'intime devient précisément politique. Le privé est devenu politique dans les années 70, l'intime devient politique aujourd'hui, c'est-à-dire que nous sommes en mesure de réclamer pour ces sujets-là un certain nombre de droits qui jusque-là nous avaient été refusés.
De ce point de vue-là, Camille Froide-Vaumétry, vous bouclez la boucle autour de votre parcours dans ces deux livres, puisque vous montrez que dans l'histoire, le partage du politique et du domestique, du public et du privé, a été le fondement de l'assignation des femmes, justement, dans le privé, dans un intime non politique. Est-ce que vous êtes surpris? Certains sont surpris aujourd'hui, et vous, justement, je pense que vous ne l'êtes pas, qu'on soit passé dans les années 60-70 à une revendication du corps sous la procréation, enfin une libération du rapport à la procréation sous le signe de l'avortement, du droit à l'avortement. Et aujourd'hui, c'est au contraire la revendication de procréer, même en dehors, disons, des schémas les plus traditionnels de la procréation. Pour vous, il y a une continuité entre la lutte des années 60 pour l'avortement et les débats, les combats aujourd'hui autour aussi de cet élargissement de la procréation?
Absolument. Le moment des années 70, c'est le moment négatif de la révolution procréatrice, quand le droit est donné aux femmes de refuser ou de repousser une éventuelle maternité. Nous vivons le moment positif de cette révolution procréatrice, c'est-à-dire que nous sommes dans un moment où la possibilité doit être donnée à tous les individus de pouvoir former un projet parental. Et donc, je crois que si on voulait simplifier, on peut dire que les années 70, c'est la liberté procréative et aujourd'hui, c'est l'égalité procréative.
Quand vous dites le moment positif, Camille Froide-Vaumétry, vous n'êtes pas sans savoir, vous non plus, qu'il y a des débats autour de ces questions. Il y a une question particulièrement sensible quand on parle des corps des femmes, c'est la gestation pour autrui. Et là, on indique souvent que ce sont justement... les demandeurs peuvent être aussi des femmes ou des couples hétérosexuels, ce sont souvent des hommes aussi, qui, on dit souvent, passe par le corps d'une femme. Est-ce que pour vous, le choix de certaines de devenir gestatrices pour d'autres, est-ce que pour vous, ça rentre dans cette émancipation?
Alors, j'ai bien compris que c'était une question importante pour vous, Frédéric.
C'est une question importante en soi.
C'est une question importante en soi, à laquelle j'ai mis très longtemps à répondre en réalité.
Je la pose justement tout en étant un homme, de la poser du point de vue féminin. Parce que c'est ça, je pense, si vous me demandez, la plus grande complication pour moi.
Je comprends.
Sans réponse a priori, d'ailleurs.
Je suis partie du constat de ce qu'il existe des dispositifs ou des façons de recourir à la, à la GPA, le modèle indien qui est typiquement celui de l'exploitation du corps des femmes de la façon la plus ignoble, puisqu'il s'agit de profiter de la misère de certaines pour pouvoir contenter d'autres. Et puis il y a le modèle californien, c'est une autre forme de catastrophe en quelque sorte, puisque là c'est la monétarisation de l'enfantement, où il s'agit de donner la possibilité à ceux qui en ont les moyens de pouvoir financer un projet d'enfant en rémunérant des femmes qui vont porter pour eux leur futur bébé. Ce qui m'importe à partir de là précisément, c'est d'essayer d'éviter que l'on puisse d'une quelconque façon instrumentaliser le corps des femmes. Mmh. Et comme par ailleurs il me semble aussi important de penser aujourd'hui ce principe d'égalité procréative qui consiste à reconnaître à tout individu, quel que soit son sexe et sa sexualité, de pouvoir former un projet parental, et donc là spécifiquement les couples d'hommes homosexuels, il me semble que d'encadrer la GPA de façon à ce qu'elle puisse justement éviter des dérives en termes d'instrumentalisation du corps des femmes, ouvre une possibilité à la fois d'être cohérent avec ce principe d'égalité procréative qui nous oblige aussi par exemple à ouvrir la PMA à toutes les femmes, et puis de protéger les femmes aussi, et notamment les plus fragiles.
En tout cas, cette protection, c'est certain, est absolument nécessaire, puisque ça peut devenir un des lieux, dans certains endroits, d'une aggravation de l'exploitation de ce corps féminin. Je suis obligé, le temps passant vite, d'oublier certaines questions. Il y en a une que je ne peux pas ne pas oublier, c'est celle du masculin. Camille Froide-Vaumétrie, est-ce que vous pensez que dans cette émancipation, il faut que les hommes assument aussi le fait qu'ils vivent dans un corps masculin et pas dans un corps humain tout court? Et qu'est-ce que ça pourrait impliquer, une philosophie du masculin? Est-ce qu'il n'y a que des hommes d'ailleurs qui peuvent l'écrire? Est-ce que là vous me renverriez la balle tout de suite, ou est-ce que vous pouvez quand même vous lancer, quoique femme?
Je vais essayer, Frédéric Worms, vous osez vous-même parler du féminin en tant qu'homme.
Ah,
donc,
oui,
voilà.
C'est vrai que c'est un peu abusif déjà.
Mais là aussi, ça me paraît quelque chose qui relève quasiment de l'évidence, c'est-à-dire que la déconstruction des stéréotypes de genre, elle ne vise pas que les femmes, c'est-à-dire les hommes eux aussi ont été façonnés par l'histoire et ont été enfermés dans un certain nombre de représentations, c'est-à-dire qu'il y a on attend d'eux une forme de performance perpétuelle, de constance, d'efficacité, etc. Il y a un certain nombre de mécanismes qui entretiennent ces stéréotypes genrés pour les hommes. Donc il y a dans le féminisme la volonté aussi, cette
de
volonté
libérer les hommes aussi.
De libérer les hommes, absolument. Et il y a surtout, dans le moment où nous sommes précisément, quelque chose qui je crois tout à fait nouveau, c'est-à-dire que les revendications contemporaines, notamment pour ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles, sont, je crois, le premier moment dans l'histoire du féminisme où les hommes sont en quelque sorte sommés de prendre leur part à cette histoire. Mmh. Ils ont pu jusqu'à présent faire un peu comme si ces choses-là ne les regardaient pas. Nous parlons maintenant de sexualité, de relations entre les femmes et les hommes, et il devient absolument inesquivable pour eux que de participer à la discussion d'abord. Je m'étonne de ne pas les entendre beaucoup, c'est un peu dommage. On entend surtout ceux qui ne sont pas les plus favorables à la dynamique d'émancipation. Mais ce qui est certain, c'est que pour ce qui regarde précisément les relations entre les corps, rien ne se fera sans que nous puissions discuter ensemble.
Je crois que vous venez de prononcer le mot le plus important, à la fois philosophiquement et politiquement, la relation entre les corps depuis chacun devant inventer la manière de vivre son corps. Peut-être que ce sont ces relations qui nous apprennent à être nous-mêmes. On peut pas inventer tout seul sa manière de vivre son corps. Et peut-être à la fois en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'enfant et parent, en tant que ami, amant, enseignant, discutant, on se partage aussi des façons d'être corporelles. Camille Froide-Vaumétrie, juste pour terminer trop vite cette conversation.
Oui, c'est le principe de la relation qui est consubstantiel de notre incarnation en quelque sorte, et qui fait aussi de nous des êtres à la fois d'émotions, mais de sensations.
Merci d'avoir partagé ce moment. Vous qui êtes donc philosophe féministe, professeur à l'Université de Reims, on a oublié de parler de ce rôle politique que vous assumez dans l'université aussi, de ce rôle institutionnel, de référente égalité. Peut-être que des hommes pourront être des philosophes féministes. En tout cas, je ne pense pas qu'ils doivent devenir des philosophes virilistes ou masculinistes. Donc, en un sens, on n'a pas le choix, on doit partager votre combat.
Je vous en remercie, Frédéric Worms.
Et je le revendique pleinement autant que possible. Merci beaucoup, Camille Froide-Vaumétrie.
Merci à vous.
Matière à penser, notre cinquième conversation pour savoir si et comment les femmes changent tout, ce soir avec Camille Froidevaux-Métry, avec et grâce aussi à Frédéric Changenet, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Joséphine Lampreya, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je cède la place, le fauteuil, le micro et la conversation à Dominique Rousset, que vous retrouverez lundi. Bonsoir.